Salut, on est le quatrième dimanche du mois et vous écoutez Des litres de salive. C'est la première émission de la saison 2 sur le 89.5 de Radio Duo. Ah ah, mon jingle ne se lance absolument pas. Attention, attention, c'est le premier bug de la saison du coup. Merveilleux, fantastique. Ah, alors, est-ce que là ça va fonctionner ?
C'est le moment de libérer la chatte.
Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre ? Ça peut arriver, tu crois ?
J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés.
Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc.
Mais combien de fois t'as simulé ?
Il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis.
Ah, c'est que ça alors ? T'es juste venu me pomper des infos.
Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre ?
Moi j'adore les histoires de pénis.
Oh là là, voilà un béguin que j'aimerais me faire.
Tu n'es pas la première femme avec qui je sors.
Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors.
Hétéro ?
Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus.
Des litres de salive, pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Aujourd'hui donc, c'est l'émission de rentrée de Des litres de salive. Et en fait, moi j'aimais bien que ce soit l'été et les vacances. Alors du coup, on va faire une petite réimmersion radiophonique avec des anecdotes plus ou moins fun sur l'été. De la musique, genre pas mal de musique en fait. Et puis je vais parler de mes lectures de vacances. Et on peut dire qu'en gros, cette émission, elle va causer culture populaire, musique, féminisme et liberté, et aussi radicalité. Alors, certains bouquins que j'ai lus cet été, ils parlaient de musique. Par exemple, un bouquin d'Angela Davis sur les chanteuses de blues des années 1910-1920, qui s'appelle « Blues et féminisme noir ». Et dans ce bouquin, on apprend que les chanteuses de blues, elles parlaient quand même pas mal de leur désir sexuel. Elle parlait aussi des types qui les maltraitaient et qui étaient des culs, et de ce qu'elles allaient faire pour les leur botter, leur cul. On va écouter pour commencer. Ah non, 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 pourquoi ? Ok, il y a plein de bugs, je suis navrée. J'espère que cela va finir par marcher, désolée. Et oui, je vous chante des trucs pour vous distraire en attendant, c'est merveilleux. Ah. Bon, heureusement que c'est la rentrée. Du coup, je disais que pour commencer, on allait écouter, enfin si cela daigne fonctionner à un moment, on va écouter une des meufs dont parle Angela Davis dans son bouquin. On va écouter Bessie Smith avec « Me and My Jean ». Et bon, c'est assez clair dans le titre, mais c'est ambiance picole solitaire, quoi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Il n'y a rien qui fonctionne. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah !
Stay away from me, 'cause I'm in my sin. with the Army Navy. Yes, me and my gin. Any bootlegger sure is a pal of mine. Any bootlegger sure is a pal of mine. All the good old Butler Jean will get it all the time. When I'm feeling high, ain't nothing I won't do. When I'm feeling high, ain't nothing I won't do. Keep me full of liquor and I'll sure be nice to you.
Et c'était donc Bessie Smith avec Me and My Gin. Dans le bouquin dont j'ai parlé juste avant la chanson, donc le bouquin de Angela Davis, j'ai retenu un passage où Davis, elle nous dit que le fait de parler des violences de genre au sein du couple, le fait d'en parler, d'en faire une question publique, avec, comme ça s'est fait dans le féminisme des années 70, ça a été précédé par le fait d'en parler de façon assez frontale dans le blues des meufs des années 1910-1920, et dans lequel le sujet était vraiment très fréquemment abordé. Et donc c'était un sujet qui était déjà présent dans la culture populaire, en tout cas dans la culture populaire des personnes noires aux États-Unis. Et ensuite, Angela Davis explique que les chanteuses de blues de l'époque, elles ont été accusées dans des analyses culturelles, dans certaines en tout cas, de en gros promouvoir la violence masculine envers les meufs et de se vautrer dans le masochisme. Hein, voilà. Et Davis, elle prend l'exemple d'une chanson en particulier pour questionner cette vision caricaturale. Et c'est une chanson qui s'appelle Yes, Indeed He Do, qui est une chanson de Bessie Smith qu'on vient d'écouter là. Et donc je vous traduis un bout des paroles vers la fin de la chanson, mais en gros c'est une meuf qui parle de son gars qui lui tape dessus, mais en fait c'est super. Donc elle dit « Of course my sweet daddy loves me, yes indeed he do. If he beats me or mistreats me, what is that to you ?» Donc bien sûr que mon chéri m'aime, et s'il me bat ou me maltraite, qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Et le petit truc, le petit paragraphe intéressant, « I don't have to do no work except wash his clothes and darn his socks and press his pants and scrub the kitchen floor. » Donc, je n'ai pas à travailler, à part laver ses vêtements, raccommoder ses chaussettes, repasser ses pantalons et récurer le sol de la cuisine. Et donc, bah, dans le bouquin, Davis, elle cite un gars qui s'appelle Edward Brooks, là, et qui a écrit sur Bessie Smith. Et en parlant de cette chanson, ce gars, il dit que Smith, elle approuve la violence envers la meuf de la chanson et qu'elle s'identifie à son personnage. Qu'en gros, elle croit, premier degré, que c'est super comment ça se passe dans la chanson, que c'est normal. Mais Davis, en fait, elle a une toute autre vision du truc et elle met en avant l'incapacité de ce type à percevoir l'ironie qui est présente dans la chanson et à penser... et il est incapable également de penser les meufs noires comme capables de second degré. Et voilà. Et elle pense plutôt que Bessie Smith, à travers... pas mal de ses chansons, elle dénonce les violences en utilisant l'humour et l'ironie dans sa musique. Et je vous invite à lire le bouquin de Angela Davis si ces questions-là vous intéressent, vraiment, elle est super. Et on va écouter la fameuse chanson « Yes, Indeed, He Do ».
To know it all, Is he true as stars above me? What kind of fool is you? He don't stay from home all night, more than 6 times a week. So I know that I'm his sheep, and I know that he's my sheep. And when I ask him where he's been, he grabs a rocking chair. Then he knocks me down and says, it's just a little lovely deal. But if some woman looks at him, I'll tear her half in two. Oh, do my sweet, sweet daddy love me? Yes, indeed he do.
Cet été, je suis allée au camping et c'était cool. C'était pour des rencontres pour l'émancipation. Et c'était ambiance, conférence, réflexion, histoire de l'anarchisme, blabla, tout ça, tout ça. Et au camping, il y avait pas mal de bruit et de sons de teuf la nuit. Et puis, il y avait des gens qui râlaient dans les mots de la criée quotidienne parce que d'autres gens faisaient la teuf. Et les gens qui faisaient la teuf, ils se sont mis à mettre des mots dans la criée pour dire qu'il y avait des boules caisses mises à disposition, tout ça, tout ça. Voilà, c'est pour une idée de l'ambiance générale. Et un soir, au camping, eh ben, je pars prendre une douche vers 18h, 18h30. Ça faisait déjà quelques jours qu'on était là et j'ai eu envie d'écouter un petit peu du son toute seule, de me faire un peu du bien en me dandinant sur un truc qui me ferait plaisir dans la discrétion de ma cabine de douche, hein, parce que bon, bah voilà, ça me manquait. Alors j'ai pris mon téléphone pour m'offrir 10 minutes de boum dans la douche, à un horaire où le bruit dérangerait personne. Je précise que j'avais pas d'enceinte pour diffuser. Du coup, le son, il n'était pas très fort. Les cabines de douche, elles étaient à l'extérieur, sur un terre-plein éloigné des tentes. Enfin, voilà. Bon, je me justifie vachement. Mais bref. Voilà, je suis dans la douche et je mets Throw It Down pour commencer de Dominique Young. Attention, je vous montre ce que ça donne.
Yeah. There go my boy Fresh. Hey Banger, what they do, baby? Like the way I work it, then I bend it over, show 'em shots. All these hoes around here sitting on their ass shots. Then I pop it, then I shake it like an ass quiz. More than all these face, I bet these bitches know me. I'm the baddest in the building. Now these bitches wanna be me. Then I take it to another level, bitch. I've been done did it. Now he think he better hit it. Like the way he rock his fitted when he's round. Don't make me throw it down.
Bon voilà, du coup je suis contente, je m'ambiance un petit peu, je me repose des excès de sociabilité dans la douche, tout ça. Et en fait, au bout d'une chanson et demie, eh ben, j'ai l'impression d'entendre une personne qui parle dans une des cabines à côté. Au début, j'ai pas trop fait gaffe, mais assez vite, en fait, je réentends la voix. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'interpelle. Voilà. Alors je baisse le son et puis je demande « Oui ?» Et là, il y a le couperet de la pénibilité qui tombe. Tu peux arrêter ta musique, franchement, c'est super chiant. Moi, j'ai envie d'être tranquille en prenant ma douche. Voilà, donc je dis ok, en fait. En vrai, ça me fait vraiment beaucoup d'énervement, surtout parce que la personne, elle m'a vraiment très très mal parlé. Enfin, vraiment, 5 minutes 10 de son pendant ta douche, ça te met dans un état pareil, mais va faire une retraite dans la cordillère des Andes. Lâche-moi, ne va pas dans un camping. Et bon, ok, déjà, si cette personne, elle m'avait parlé de façon plus sympathique, j'aurais éteint ma musique et puis je me serais sentie moins merdique, tout ça. Mais après, je me questionne quand même sur la facilité avec laquelle j'ai cédé sur mon bien-être pour préserver le confort de cette personne rabat-joie. Et sur le fait de toujours privilégier la restriction et de trouver la restriction toujours plus légitime quand il est question de liberté et de confort. Parce que dans une situation comme celle-ci, en fait, il y a plusieurs options. Il y a ce qui s'est passé, où je m'abstiens de faire un truc pour le confort d'une autre personne. Et on parle bien de confort, hein, et de trucs où on touche pas la personne et où on l'agresse pas, je précise, au cas où. Parce que la limite précise, elle peut être dure à déterminer dans certains cas. Parce que, par exemple, mon son, il est quand même capté par ses oreilles. Donc, quelque part, ça la touche. Mais bon, vous voyez, on est sur du confort et pas sur des histoires de liberté d'importuner, quoi. Donc, je restreins mon confort et ma liberté pour son confort et sa liberté. Mais cette personne, il y aurait eu d'autres solutions. Cette personne, elle aurait aussi pu prendre sur elle, malgré son désagrément, et me laisser kiffer dans la douche. Ou alors cette personne, elle aurait pu aimablement me dire ce qu'elle voulait et ouvrir un bref dialogue où les deux parties se seraient senties respectées dans leurs envies. Et dans ce cas, j'aurais probablement aussi éteint la musique parce que bon, quand même, je suis sympa. Et puis prendre en considération le bien-être des autres quand c'est possible, et bah, c'est plutôt pas mal en fait. Mais du coup, voilà, de ce bref incident, je vais maintenant dégager plusieurs thématiques de réflexion. Alors, thématique numéro 1. Prendre sur soi, pour qui et pourquoi. Donc ça, c'est juste une parenthèse qui n'est pas vraiment pertinente dans l'exemple dont on parle, mais qui l'est souvent. Les personnes qui prennent sur elles, c'est souvent des personnes appartenant à des catégories opprimées, voire les très nombreuses références à ce sujet, les trucs de charge mentale, charge raciale, charge sexuelle, tout ça. Donc, c'est pas du tout neutre de prendre sur soi quand on est, par exemple, une meuf dans une relation ou juste dans une interaction avec un mec cis. Et de même, prendre sur soi dans le but de coller à certaines conventions sociales, ce n'est pas neutre. Parce que ces conventions sociales, elles sont dominantes et forgées au sein d'une société qui est pleine d'idées un peu moisies sur ce qui se fait ou pas, quand même, assez souvent. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, thématique suivante, la légitimité de la restriction. Donc pendant le séjour, il y avait une question récurrente sur le bruit nocturne et c'était abordé quasi à toutes les criées. La revendication de « moins de bruit la nuit », elle était vite présente et c'est qu'après plusieurs jours de demande de calme que les fêtards ont fini par revendiquer à leur tour un droit à faire la teuf, au bruit et à pointer des solutions pour les sensibles de la feuille, comme les boules-quies, aller emménager plutôt au fond du camping. Mais les personnes s'était senti légitime de souhaiter limiter les activités des autres et de le dire publiquement. Et bon, bah jusque-là, il y a une certaine logique. Hein. Les personnes, elles sont dérangées, elles se manifestent. Et les personnes qui les dérangent, elles leur répondent et proposent des trucs. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les personnes qui étaient dérangées se sont senties légitimes d'être sur le registre de râler, en fait. Donc ça prenait plutôt une forme de ce style dans les mots de la criée. C'est plutôt genre « le bruit, on n'en peut plus, on n'est pas en discothèque ». Elles n'ont pas proposé de chercher ensemble une solution pour préserver la liberté des unes et diminuer le désagrément des autres. Voilà. Les personnes de la fête, après avoir été interpellées, elles ont quand même plutôt proposé des alternatives. Donc ça met en avant pour moi une logique de la restriction et tout un fonctionnement de prohibition pour préserver l'ordre social au lieu de construire d'une autre façon. Et l'incident qui s'est produit pendant ma douche, je trouve ça fait écho à ce genre de fonctionnement. Et un autre indice du sentiment de légitimité de la personne, c'est pour moi son degré d'agressivité. Parce que, déjà, il y a la question de est-ce qu'elle est agressive parce qu'elle se sent légitime ou est-ce que justement elle est agressive pour asseoir son sentiment de légitimité. Bon, je vous le dis, on saura jamais. Hein. Mais il semblerait que pour elle, ça soit tellement évident que ce que j'ai fait, ça dépasse les limites, hein, que le minimum de politesse ne soit plus requis de sa part. Et ça, c'est un mécanisme assez particulier de justifier l'agression par un défaut moral de la personne en face. Sur cette question, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de la chaîne YouTube ContraPoints. C'est une vidéo qui est intitulée Envy. Et il y a des sous-titres français. Hein. Dans cette vidéo, qui parle de tout un tas d'autres trucs par ailleurs, Nathalie, c'est la meuf de ContraPoints, elle nous parle de situations où un mal-être émotionnel pousse à agresser des personnes et à rechercher des justifications morales à ces agressions. Voilà. Je sais pas comment on peut... Par exemple, quand je suis jalouse parce que ma Chine, elle a vraiment une magnifique combi à paillettes trop stylée, mais qu'au lieu de me dire que je suis jalouse, je la traite, publiquement ou pas, hein, mais je la traite de chantre du capitalisme social traître qui file du fric à des chaînes de magasins qui exploitent des gens, et que quand même, son éthique, elle est discutable. Alors vraiment, je peux dire qu'elle est vilaine. Voilà, je peux la juger. Et bien que j'ai pas forcément tort de penser ce que je pense du fait, par exemple, d'acheter des vêtements neufs, tout ça, ben là, en fait, je convoque ce que j'en pense dans un but spécifique. Dans le but de m'épargner des sentiments désagréables et de la juger. Et du coup, le sentiment désagréable de jalousie que je ressentais, eh ben maintenant, il est enfoui sous des kilomètres d'énervement et de sentiments de supériorité morale. Que ce soit bien clair, là, je veux pas dire qu'on doit pas s'énerver sur les personnes qui font ou qui disent de la merde, hein, certainement pas. Encore moins quand ça concerne des questions d'oppression. Mais là, je parle d'un truc précis. Je parle d'agressivité issue d'une émotion négative et justifiée par un jugement moral d'autre part. Et ce jugement moral, il procure un sentiment de légitimité à pourrir la personne. Bref, regardez la vidéo, et de toute façon, ça sera toujours plus clair que ce que moi j'en dis. Et il y a un bouquin qui s'appelle « Le conflit n'est pas l'agression » que j'ai pas lu, j'ai lu la brochure qui le résume, qui parle de ça aussi, je sais pas, voilà. Il y a une brochure sur un faux kiosque, il me semble, et c'est de Sarah Schulman, voilà. Donc, thématique suivante, contexte et subtilité, une échelle du désagrément. Pendant ce séjour au camping, il y a des gens aussi qui m'ont fait chier en faisant du bruit. Et bon, en fait, moi-même, je leur ai dit, enfin, je leur ai fait comprendre, parce que j'arrivais pas à parler, je dormais à moitié, j'étais trop vénère. Du coup, je leur ai fait comprendre d'arrêter de faire du bruit. Et ça me permet d'aborder la question de l'importance du contexte, du point de vue et du degré. Parce que moi-même, donc, je me suis sentie légitime de dire à des gens de calmer leur vocalise. Et oui. Mais moi, en fait, je suis une personne raisonnable. Alors quand je limite les libertés des autres, eh ben j'ai raison. Voilà. Non, mais c'est juste que les gens, ils parlaient vraiment très fort, juste devant ma tante à 3h du mat, pendant très longtemps, et en agitant une lampe super puissante qui éclairait l'intérieur de ma tente par intermittence. Genre vraiment, c'était un peu vénère. Et moi, j'apprécie la liberté personnelle de chacune, mais quand même. Et du coup, il y a quand même une échelle du désagrément et une échelle de sa prise en compte. Autant bon, la musique pas forte dans un lieu collectif à 18h, bah, je m'attendais pas à ce que ça soit un problème. Autant les cris qui réveillent à 3h du mat juste à côté de mes oreilles, bah, je trouve pas ça pareil, je peux pas m'empêcher, mais du coup, ça veut dire que moi aussi, je m'attends à ce que certaines conventions et certaines limites soient respectées, même si elles entravent les élans de conversation alcoolisée de certaines. Et je dois dire qu'en me réveillant, je me suis sentie moralement supérieure à ces personnes, hein, qui faisaient pas du tout attention aux autres, quelles affreuses personnes. Bon, ceci dit, une solution concertée a été trouvée après que je sois intervenue. Hein. Ces personnes ont éteint la lampe, qui ne servait à rien, et ont parlé moins fort, et tout est bien qui finit bien. Mais bon, c'est sans fin ce truc de la limite et de ce qui est justifié ou pas, et c'est peut-être pour ça que c'est pas mal de construire ensemble des limites, un peu toujours, au cas par cas. Et sans oublier de tenir compte des rapports de pouvoir inhérents à toute situation, bien sûr. Et voilà, pour conclure, je vais parler d'une quatrième thématique, hein, qui est psychologie nulle et récupération de l'empathie pour des personnes qui me parlent vraiment super mal. En fait, peut-être que pour cette personne, la douche, c'était son seul moment de paix de la journée. Et peut-être que son mec trop relou, il venait de brûler le taboulé et de lui dire « Non, mais tu vois, c'est mieux que ça soit toi qui fasses à manger parce que moi, je suis trop nulle pour ce genre de truc. » Et qu'en plus, il jouait « La rue qui est à nous » à la guitare toute la journée. Et moi aussi, j'aurais vrillé, franchement. Peut-être vraiment, c'est dur, sa vie. Et du coup, peut-être qu'elle a éprouvé le besoin de se sentir puissante. Elle a eu envie de sentir qu'elle pouvait avoir du contrôle sur au moins certains aspects de sa vie, sur son petit quart d'heure de douche sans la rue qui est à nous. Et peut-être aussi que cette chanson, ça lui rappelait quand elle s'est cognée le petit orteil en tongs sur un coin du bar à côté du dance floor. Ou peut-être juste elle est méchante. Bon, vous allez me dire, vraiment, c'est hyper passionnant, tes conflits mouillés de vacances, mais là, on va nulle part. Et bien, en fait, tout ça, ça m'a fait repenser à plein de trucs sur les relations amoureuses, les limites, les besoins, les vétos, le sentiment de légitimité ressenti par les personnes qui se situent dans la norme hétéromonogame pour écraser les autres en disant « vilaine, pas bien », quand elles sont pas contentes. Et on peut appliquer toute cette histoire de douche à des histoires de l'amour, des histoires de l'amour au sens large, les amis, les amantes, les amoureuses, tout ça. Je vous laisse procéder à l'application. Ce que j'ai envie de retenir, à part que, au moins, j'ai été mouillée, c'est qu'on peut construire des trucs hors des automatismes normés, mais avec de la considération pour ce que ressentent les autres et trouver un équilibre le plus possible. Et oui, bah, en fait, bon, ce que je vais dire, c'est super évident, mais moi, ça fait peut-être pas si longtemps que je me le formule. Une radicalité qui repose uniquement sur une éthique et des principes politiques, sans considérer les émotions, les envies, les besoins affectifs, eh ben, je trouve pas que ce soit un truc enviable. Et vraiment, c'est cool le moment où on capte que plus tôt, eh ben, en fait, avoir de la considération pour les envies et besoins affectifs de chacune, y compris des siens, eh ben, ce sera ça, sa radicalité politique. Ouais, voilà. C'est super beau, mais quand même, des fois, c'est pas très clair. Et puis, c'est bien la merde pour y arriver. On écoute Big Johnny avec Fall Asleep.
Yeah.
et c'était Big Johnny avec Fall Asleep et Girlwood avec Get Shot. La chanson de Girlwood qui dit en gros qu'il faut, il faut être gentil avec les garçons, et il faut être gentil avec les garçons qui sont tristes, sinon, sinon tu vas te faire tirer dessus. Voilà, c'est sympa. Cet été, je ne suis pas allée seulement au camping. Attention, je suis allée aussi à la plage. Et parfois, j'y suis allée toute seule. Et puis, des fois, je me suis mise torse nu. Et j'étais contente de me sentir de le faire parce que bah, je trouve ça assez agréable. Et j'étais frustrée de ne pas l'avoir fait pendant la première partie de mes vacances à la piscine du camping, du coup. Du coup, sur la plage, à un moment, bon, j'étais fatiguée, je fais une sieste. Et quand je me suis réveillée de la sieste, eh ben, je me rends compte qu'il y a un type dégueu qui s'est beaucoup rapproché de moi. Et il est planté là, tout près, debout, à me mater. Et quand je me rassieds en me réveillant, tout ça, il part même pas. Il continue un petit peu à me regarder et puis je dois le fixer de façon vraiment peu amène pour qu'il se décide à se barrer. Et ça m'a fait l'insécurité physique. Ça m'a fait de l'énervement, de la honte de ne pas me défendre de façon plus véhémente et de ne pas juste lui péter les dents, en fait. Ça m'a fait un gros tas de émotionnel, comme ça, contre lequel c'était difficile de lutter. Et j'ai essayé de m'en foutre, un peu par réflexe. Et c'est pas toujours possible, mais c'est aussi pas toujours le choix le plus pertinent. Et puis déjà, bah, en fait, est-ce que c'est bien un choix ? Pas vraiment, parce qu'on en a quelque chose à foutre ou pas. Et tout le monde n'a pas la possibilité et le luxe de s'en foutre des choses, en fait. Toutes les personnes n'ont d'ailleurs pas la même quantité de choses dont elles aimeraient se foutre à gérer. Et cette quantité qui grignote toujours un peu plus leur capacité à s'en foutre elle-même. Et je crois que je suis en train de parler de résilience. Et de, ça aussi, c'était un thème de l'été. C'était un peu l'été de la résilience, quoi. Et bah, je ne vais pas en parler là de suite parce que je ne me suis pas calée là-dessus. Mais bon, je l'ai dit tout à l'heure, à la piscine du camping, eh ben, je ne m'étais pas mise torse nu. Pourtant, il y avait des personnes qui l'étaient à certains moments, et c'était toutes des personnes jeunes avec des corps et des seins correspondant beaucoup aux normes de beauté conventionnelles. Bon, et je crois que ça me bloque encore plus quand la situation elle est comme ça que quand il n'y a personne du tout qui est torse nu. Mais enfin, ça, c'est mon problème. Mais bref, plus tard, en discutant, j'ai compris qu'il y a une copine à moi qui est plutôt pas dans ces normes de beauté conventionnelles et qu'elle, à des moments, elle s'était mise torse nu dans la piscine. Et alors, déjà, c'était cool. Mais aussi, je me suis demandé à quoi ça avait tenu pour elle et pour moi et pourquoi je m'étais pas sentie de prendre cette liberté-là. Petite parenthèse. Moi, j'estime que c'est une liberté parce que pour moi, c'en est une et que j'apprécie la nudité sans connotation sexuelle avec mes seins qui flololotent dans la brise. Mais ça m'est propre et c'est pas une liberté en soi. Je veux dire, si on aime être torse nu, eh ben, c'est cool. Mais si on n'aime pas être torse nu, eh ben, c'est pas un usage de liberté de se mettre torse nu. Enfin bref, on pourrait développer longtemps comme ça. Mais donc, je me suis demandé à quoi ça avait tenu de le faire ou pas. de pas me sentir assez ok pour vivre ça comme un truc neutre ou comme carrément un truc d'émancipation. Et qu'est-ce qui m'a ramolli ? Et y a pas de réponse à ça, et en même temps il y en a des dizaines, je saurais jamais vraiment. Et c'est un peu fou à quel point le sentiment d'émancipation et de liberté, il dépend du contexte et de nos émotions, de tout l'ensemble de trucs qui renforcent, qui sécurisent ou au contraire qui affaiblissent, tous ces trucs qu'on vient de vivre, ou qui nous manque vraiment pas, et mélangé à ce qu'on est, à un degré un peu plus profond. Et bon, il y avait quand même la thématique du torse nu assez présente pendant les vacances. Et bon, c'est normal, c'est une thématique de l'été. Et il y a eu un moment, toujours au camping, où j'ai dit à un mec cis, avec lequel je relationne, que ce serait bien qu'il mette un t-shirt pour aller voir les conférences. Bon, il le fait, très bien, voilà, pas de problème. Le séjour se passe, on s'engueule sur divers sujets, comme toute bonne personne en relation qui part en vacances ensemble. Et du coup, bon, il y avait une ambiance un petit peu tendue au moment de partir du camping et de prendre la route. Et à ce moment-là, il relance la conversation du torse nu. Ne serait-ce pas super si tout le monde pouvait être tranquillement torse nu quand il fait chaud ? Ce à quoi je réponds que, en effet, ce serait super. Mais il poursuit avec autre chose. Pourquoi les meufs ne font-elles pas un effort pour normaliser le torse nu ? Pourquoi ne se mettent-elles pas torse nu malgré tout ? Cela bénéficierait à tous et toutes, et tout le monde serait plus libre. Bon, je me souviens pas des mots exacts, mais en gros, voilà, c'était ça, les questions. Pourquoi les meufs le font pas, quoi ? Alors, du coup, je savais pas trop par où commencer, et si vraiment j'avais envie de parler de ça, mais je lui ai demandé ce que lui-même allait faire pour soutenir les personnes qui ont des seins en vue de cette amélioration de la liberté collective, vu que le sujet avait l'air de vraiment l'intéresser. Et bon, alors cette conversation, elle s'est pas hyper bien passée. Mais vouloir que des personnes qui subissent déjà des pressions par rapport à leur corps, des pressions qui se traduisent par des gros dégueulasses qui les mettent sur la plage, des remarques sans fin plus ou moins directes à propos de leur corps qui ont un impact sur leur bien-être, et ça encore, c'est des trucs tranquillous, hein. Bon, bah, qu'une personne qui subit pas du tout ça, elle me suggère d'affronter toute cette merde encore plus et de faire un effort pour parvenir à la liberté, oh oui, la radicalité et le véritable anarchisme. Tout ça parce que, s'il te plaît, Jackie, il a eu trop chaud dans le chapiteau des conférences. Bon, ok, je sais que derrière tout ça, il y a des vraies questions sur la liberté et qu'il y a un souhait sincère d'améliorer les choses. Mais pourquoi ? Pourquoi je dois déployer autant d'efforts pour découvrir de louables intentions sous du caca ? Moi aussi, j'étais en vacances. Et je veux bien les vacances des émotions des types, les vacances de faire attention pour ne pas froisser les gens. Je veux les vacances de prendre sur moi. Je veux boire des gin tonic en dansant dans la piscine et puis crier vraiment très fort quand quelque chose me va pas et encore plus fort quand je suis contente et que personne trouve ça grave. C'était Cheap Perfume avec It's okay to punch Nazis. Voilà, c'est ok de taper les nazis. Bon, alors il n'y a pas que les types dégueulasses sur la plage et les engueulades de couple en vacances dans la vie. Il y a aussi le plaisir. Le plaisir des corps en mouvement. Je parle bien sûr de la danse. Oui, de la danse. Alors, dans un autre bouquin que j'ai lu cet été, qui s'appelle Le Good Booty de Ann Powers, Corps et âme, noir et blanc, amour et sexe dans la musique américaine, mais en fait états-unienne. Oui, petit avertissement sur ce bouquin. Ce bouquin est écrit par une journaliste musicale qui est blanche. Et même si elle a conscience des questions de racisme et de sexisme dans la musique, bon, les oppressions systémiques, on sent que c'est un peu... C'est pas très, très mobilisé dans ses écrits, même si c'est un peu présent. Et bon, n'empêche, son bouquin, Il est écrit de façon accessible et il parle de trucs cool. De trucs cool comme le shimming. Alors c'est une danse, ou plutôt, peut-être c'est plutôt un style de mouvement qu'une danse. Et ça fait un peu penser au twerking par certains aspects. Et le shimming, c'est aussi une danse qui vient de danse pratiquée par des personnes afro-descendantes aux États-Unis. Donc dans le bouquin, Anne Powers, elle parle aussi du hoochie-coochie. Alors le hoochie-coochie, c'est une espèce de version coloniale de la danse orientale, mais peut-être l'appellation danse orientale, c'est pas super non plus. Je suis pas sûre. Bon, bref, le hoochie-coochie, ça s'est popularisé à l'occasion, entre autres, de l'exposition universelle de 1893 à San Francisco, dans lequel il y avait un, guillemets, village algérien. Et la danse, elle s'est popularisée chez les personnes blanches d'une façon gênante et orientaliste. Et chez les personnes noires, elle a évolué, elle a pris le nom de shimming et elle s'est couplée avec le style musical du ragtime. Bon, je résume, hein, parce que c'est plus développé dans le bouquin, mais je vais vous lire deux extraits qui parlent du shimming, du moment où il est arrivé dans la société états-unienne et de en quoi il consiste. Les années 1890 furent une période de crise pour la sexualité, avec un taux de divorce en expansion et des femmes devenant soudainement plus indépendantes et plus directes. Les règles de la séduction et du mariage durent alors être repensées pour rendre à ces femmes heureuses, tout en permettant aux hommes de garder leur autorité dans le foyer. Cela plaidait pour une nouvelle culture de l'érotisme, un ensemble de nouvelles habitudes et de nouvelles pratiques promouvant l'habileté et la délicatesse dans l'acte amoureux. Dans les années 1910 et 1920, les roulements de hanches et d'épaules, ainsi que la musique qui les motivait, non plus les notes du Moyen-Orient, mais la frénésie qui s'échappait des social clubs afro-américains et des lupanars de Storyville, allait devenir un biais par lequel des millions d'Américains lambda pourraient se connecter à leur côté sauvage. En cherchant un peu, on en trouvait partout la résonance. Le shimmy, appellation qui supplanta le terme hoochie-coochie dans les années 20 et jusqu'à aujourd'hui, ne s'est jamais résumé à une danse. C'était un manifeste en mouvement à propos de l'objet même de la danse et à propos de la place de la sexualité dans la vie publique. Pour le pratiquer, il faut adresse et discipline, mais surtout pas de raideur. Il s'enracine dans la chair comme dans la terre qui s'offre ferme aux pieds des danseurs. Contrairement aux épigones du ballet ou aux danses de cour européennes, le shimmy n'aspire à aucun idéal chimérique. Des épaules au bassin, les mouvements du torse installent le danseur dans une position littéralement sexuelle, comme un entraînement à la vie intime mais en public. S'ouvrir à de nouvelles danses était devenu un moyen de se montrer ouvert à de nouvelles façons d'aimer. Voilà, c'était les deux extraits. Là-dedans, on parle quand même de style de danse très connoté sexuellement et qui était déjà installé dans des cultures occidentales ou occidentalisées, en tout cas, il y a plus de 100 ans. Et moi, j'ai trouvé ça cool, un petit peu étonnant, parce que bah, je pensais que même si ce type de danse, genre les danses saccadées avec des mouvements du bassin évocateurs de sexualité, les secousses, tout ça, bah, ce genre de danse, a priori, ça existe depuis super longtemps sur le continent africain ou en Inde, par exemple. Et ben, je pensais que c'était vraiment plus récent dans un cadre occidental. Et donc, bon, le phénomène récent de sexualisation explicite dans la danse, gna gna gna, la décadence du monde moderne, le twerking c'est vilain, tout ça. Bon, peut-être ça donne d'autres perspectives là-dessus. Bon, après, c'est pas parce que les trucs sont vieux qu'ils sont bien, hein, mais juste, voilà, autre perspective. Et on va écouter à présent une chanson qui parle du shimmy et qui s'appelle « I wish I could shimmy like my sister Kate », donc j'aimerais bien pouvoir danser le shimmy comme ma sœur Kate. C'est une chanson qui, à la base, a été écrite en 1923, et ici, elle est reprise, du coup, très récemment, même si j'ai pas l'année, je pense que c'est les années 2010, par Cecil McLaurin Salvant.
With my sister Kate, everybody there thought she danced so great. I realized a thing or two then I got wise to something new. I looked at Kate, she was in a trance, and then I knew it was in her dance. All the boys are going wild over Katie's dancing style. I wish that I could shimmy like my sister Kate. She shivers like the jelly on a plate. My mama wanted to know last night, what makes the boys think that Kate's so nice? Everybody in the neighborhood knows that she can shimmy and it's understood. I know that I'm late, but I'll be up to date when I can shimmy like my sister. I mean, shimmy like my sister Kate.
Dans la chanson, elle dit que sa sœur, elle aimerait pouvoir danser comme elle et que sa sœur tremblote comme de la gelée sur un plat, voilà, comme la jelly là, comme dans Jurassic Park, tout ça. Bref, donc dans le bouquin Good Booty de Anne Powers, elle parle aussi à un moment des Riot Girls, du punk de meuf, du rock de meuf et du groupe Hall. Et bah voilà, je vais lire un petit bout où elle parle de tout ça.
Anne Powers, Good Booty, page 326. Le rock féministe des années 90 dépassait de beaucoup le chant Riot Girl. Les groupes exclusivement féminins proliféraient alors. L7 à LA, Babes in Toyland à Minneapolis, Year Beach à Seattle. Des artistes solo comme Liz Phair, dont l'album Exile in Guyville évoque sans détour les agressions quotidiennes masculines via d'explicites chansons telles que Fuck and Run, Baiser et se barrer, et PJ Harvey qui retournait les clichés du rock à coups de phrases comme « You leave me dry »,« Tu me laisses sèche », sont allés plus loin que n'avaient osé le faire Janis Joplin et d'autres héroïnes de la contre-culture. Dans « Me and a Gun », l'auteur-compositrice Tori Amos fait le récit sans embâche de son propre viol, et elle a contribué à créer la « Le Rain », réseau national contre le viol, les agressions et l'inceste, qui continue de venir en aide aux victimes partout en Amérique. Le duo Indigo Girls, ouvertement lesbien, et la ménestrelle Melissa Etheridge ont tissé des liens entre le son folk de la musique féminine des années 70 et le rock contemporain. S'intéressant aux inégalités dans l'industrie musicale, l'auteure-compositrice Sarah McLachlan a fondé en 1997 le festival itinérant Lilith Fair, dominé par les femmes, qui, le temps de 3 étés, a réuni des artistes de tout genre et de toute génération. Le Lilith Fair a attiré tant de femmes qu'il s'est hissé à la tête des événements de l'année avec ses 16 millions de dollars et ses 38 concerts. Cette popularité, a même tiré de leur torpeur les vieux télé-évangélistes reaganiens. À la rédaction du journal tenu par le révérend Jerry Falwell, on qualifia l'événement de « démoniaque », puisqu'il tirait son nom de la prétendue première femme d'Adam. D'autres hommes, moins versés dans les écritures, se sont contentés de tourner en dérision en l'appelant « Lesbopalooza » ou « Breastfest », le festival des mamelles. Ces boulets tirés sur l'hélisphère nous rappellent que si le rock féministe témoignait bien d'une prise de conscience inédite dans le rock grand public sur la question du genre, son avènement s'est vu accueilli par un effet couvre-feu qui fragilisait son enracinement. Ce phénomène a donné naissance à des figures clivantes, dont la meneuse du groupe Hole, Courtney Love, était la plus controversée de toutes. Elle n'était pas du genre à raider un mouvement. Elle méprisait les activistes, les Riot Girls, et conclut Live Through This, le deuxième album de Hole, par une tirade contre ce qu'elle considérait, chez elle, comme un entre-soi conformiste. On a les mêmes façons de s'habiller, les mêmes façons de parler, et même les mêmes façons de baiser. En tant qu'épouse puis veuve de Kurt Cobain, et que figure charismatique du grunge, Love occupait une position privilégiée, mais elle était aussi la cible de stigmatisation. On l'accusait d'avoir fait de Cobain une victime, de l'avoir utilisé pour accéder à la gloire. Et pire encore, après sa mort, lorsque certaines langues de vipères se sont mises à l'en rendre directement coupable, la personnalité hargneuse de Courtney Love et sa flagrante ambition pop n'ont fait qu'alimenter une image de succube venimeuse, très mal en vue dans un milieu qui, issu du punk, valorisait l'indépendance.
Bon voilà, j'apprécie beaucoup le terme de succube venimeuse. Et du coup, bah, vous l'aurez compris, on va écouter Hole, on va écouter Teenage Whore. La plupart des sons qui ont été diffusés dans cette émission font partie d'une playlist plus vaste qui va être diffusée pendant la soirée Radio Duo qui a lieu au Clapier le 4 novembre. Voilà. J'ai cité comme référence dans cette émission le livre « Good Booty » de Ann Powers, le livre « Blues et féminisme noir » d'Angela Davis, la vidéo « Envy » qui doit dater d'il y a 2-3 mois hein, sur la chaîne YouTube de ContraPoints. Il me reste à sortir du déni et à accepter que l'été est fini depuis longtemps. On se quitte avec un groupe dont j'ai entendu parler en feuilletant « La revanche des She-Punks » de Vivienne Goldman. Cette chanson, c'est une reprise de I'm a Man de Bo Diddley, qui à la base est sortie en 1955. Cette version, c'est une version du groupe Dickless, qui date de 1990. Alors, juste avant ça, j'ai un bonus devinette, voilà, qui n'est pas sans rapport avec mon moment de camping et de conférence sur l'anarchisme. Donc, c'est une devinette, et il s'agit de deviner un mot valise dont la définition est la suivante. Donc on doit deviner le phénomène qui se produit lorsqu'un type 6 avec lequel on discutait se lance dans un long monologue sur l'anarchisme. Donc quel est le phénomène qui se produit quand un type 6 se lance dans un long monologue sur l'anarchisme ? J'ajouterai un indice, c'est le phénomène qui se produit sur nous. Quand un type 6 se lance dans un long monologue sur l'anarchisme. Voilà. Et sur ce, je vous laisse avec Dickless, I'm a Man.